Bonsoir, chers auditeurs. Nous revoilà ensemble pour une soirée d'une heure et demie. Et ça va être, comme d'habitude, avec un très grand plaisir et puis une très grande, une très grande attention que nous allons parler des questions d'actualité, en particulier des questions d'actualité internationale, parce que les événements s'aggravent et que, par conséquent, s'il faut en parler, il faut en parler très, très sérieusement. Mais d'abord, je fais appel à notre ami, le pasteur Blanchard.
Oui, bonsoir, cher Hilaire.
Bonsoir, cher ami.
Comment allez-vous?
Eh bien, j'essaye d'aller. Moi, les événements me font un peu mal au cœur.
Ah oui, oui. Et là, on est rentré dans quelque chose de...
Ah oui, je ne sais pas vers quoi
terrible,
nous allons.
Hein.
Et je ne vous cache pas que je suis un peu inquiet. Inquiet, évidemment, pour les chrétiens là-bas du Liban, en particulier, mais d'une manière générale, pour les populations qui subissent les contre-coups des décisions des uns et des autres.
Oui, oui.
Et puis, je suis inquiet pour mon pays, parce que je ne suis pas sûr du tout que la France se prépare à des événements graves. Alors, nous allons avoir tout cela dans les jours qui viennent. Tout va se dessiner. Mais vous, vous continuez et votre voie et je vous laisse vous expliquer.
Voilà. Je venais tous un peu d'espérance,
oui.
Un peu de clarté dans ce monde enténébré. Donc,
et de charité.
Voilà, donc,
et de charité.
Et de vertu chrétienne, surtout qu'on essaie d'appliquer. Alors, je continue à travailler, comme vous le savez, à travers Espérance au cœur, au 09 72 16 33 10. 09 72 33 10, lieu d'écoute où on peut exposer ses problèmes, ses difficultés. Quand il s'agit de questions sociales, nous pouvons orienter les personnes vers des services sociaux adaptés. Parmi les appels que nous avons reçus, celui d'une dame de l'Aube dont la fille est devenue suicidaire, j'ai pu la conseiller pour qu'elle trouve un lieu où elle puisse mettre des mots, parce qu'il est très important de mettre des mots.
Bien sûr.
O-T-S sur les mots A-U-X.
Oui, oui.
Mais aussi pour qu'elle puisse avoir un traitement adapté à sa situation. Alors, nous avons toujours Béatrice Chaberneau, notre secrétaire générale, qui propose ses services pour des formulaires, courriers professionnels ou privés, mémoire, mais aussi pour aider, comme vous le savez, sur Internet. Pour cela, un téléphone et un courriel. Le téléphone, c'est le 06 79 72 88 20, 06 79 72 88 20, et le courriel Béatrice Chaberneau avec un D à la fin, @orange.fr. Et maintenant, voilà mon anecdote de cette fois-ci.
Ah oui,
concernant...
racontez.
Voilà, alors là, celle-là est aussi assez drôle. Il y avait un SDF haut en couleur qui était à l'entrée du métro Sèvres-le-Courbe. Et c'était un gars du Schnorr qui aimait la dive bouteille et qui avait la langue bien pendue. Et il était haut en couleur, il apostrophait tout le monde de manière impertinente, avec sa faconde. Et il a eu un jour la malheureuse idée d'apostropher quelqu'un qui était très connu, qui habitait dans le quartier, qui habite tout près de Sèvres-le-Courbe, je l'ai appris, qui était ancien ministre, qui est M. Édouard Balladur.
Ah, oui.
Alors, M. Édouard Balladur passait par là, et notre SDF l'apostrophe. Et quelle idée il a eue, M. Balladur, de vouloir lui rétorquer. Ça a dégénéré en nom d'oiseau. Et à un point tel qu'il s'est énervé, qu'il a appelé la police, elle est venue chercher notre SDF du Schnorr, et elle l'a mis au violon, passé la nuit, pour cuver son vin, et ils l'ont libéré le lendemain matin. Et dès le lendemain, on le retrouve à la même place, en train d'invectiver les passants, comme il la faisait toujours, comme d'habitude. Je me souviens d'une maraude où je l'ai présenté à... de ville et mort. Hein. Mais je l'ai présenté à Louis Alliot en lui racontant ce qu'il avait fait, comment il avait apostrophé notre ancien Premier ministre. Et il s'est permis aussi là des impertinences en disant que c'était des bons à rien, des incapables, et qu'il avait bien fait son travail. Voilà donc l'histoire de notre ami du Snor qui est mort. Bon, il faut dire qu'il était très très alcoolisé et il n'y a pas eu malheureusement de rémission pour lui. Il est mort assez jeune, mais c'est vrai que c'était un personnage, c'était un gars du Nord. Voilà, donc,
très bien.
Alors, voilà l'anecdote. Je vais finir par les annonces classiques.
Oui.
Pour les amoureux de nostalgie de notre radio préférée, pas la radio nostalgie, hein,
oui.
Et notre radio préférée, une seule adresse, mémoireaucoeur, http://mémoireaucoeur.overblog.com. Et vous pouvez faire un geste militant en visitant le blog du pasteur Blanchard, en mettant en recherche sur Google le blog du pasteur Blanchard. Enfin, je salue un fidèle parmi nos fidèles, un ami dont je sais qu'il m'écoute à l'heure actuelle, un ami de notre association, quelqu'un qui me soutient dans le combat que je mène, l'excellent et l'inénérable Jean-Claude Antonouti. Voilà Jean-Claude, bon. Je vous avais promis de vous faire un petit coucou, Jean-Claude Antonouti.
Et
voilà, et la prochaine fois, l'anecdote comment notre Bruno Gollnisch national a failli en arriver aux mains avec un SDF. Je vous raconterai ça aussi, c'était une anecdote assez marrante, parce que, vous savez, il a le sang chaud, Bruno. Hein.
Ah bah oui, je le connais un peu.
Et les SDF, eux, ils sont ravinés, quoi.
Oui.
Et j'avais voulu dire, écoute, laisse tomber, tu vois pas qu'il est bourré. il n'arrivait pas. Et voilà, alors j'ai fait un aparté en disant, demain, dans la presse, on lira un député européen, a été mis au placard parce qu'il s'est bastonné avec un SDF. Enfin voilà, donc je vous raconterai l'anecdote la prochaine fois.
Merci.
Mais c'est vrai que Balladur, on ne pense pas qu'avec le sang-froid qu'il a, c'est quelqu'un réagir comme ça. C'était surprenant, et surtout un SDF, quand on sait qu'il picole.
Là,
ça lui a pris, la mouche l'a pris.
On supporte l'injure de passage, évidemment.
Ouais. Et il habite tout près, hein, c'est le 15e à côté, là il est donc tout près de Sèvres-le-Courbe, il habite là. Et il a encore envie d'ailleurs, hein, voilà. Donc bah, écoutez, je vous dis au mois prochain.
Au mois prochain.
Je salue toute l'équipe de Courtoisie et tous nos amis de près et de loin. La personne qui est à la technique, elle me disait, il y a pas mal de temps que je suis là, je disais, moi ça fait 31 ans. Ouais, et vous aussi, même plus, vous aussi, Hilaire.
Je ne sais plus, je ne compte pas, je suis arrivé à un âge où je refuse de compter.
Voilà, je
Merci.
Vous souhaite une bonne fin de soirée, amitié à tous, et au mois prochain.
Merci beaucoup, Pasteur Blanchard, merci beaucoup. Alors, nous reprenons nos propos, et... Donc je voudrais que nous parlions, et j'ai pris beaucoup de notes, je m'aperçois que mon ami Élie de Trèves a pris également beaucoup de notes. Je voudrais que nous intervenions sur le sujet qui est en discussion sur toutes les radios, sur toutes les télévisions, et en particulier sur Radio Courtoisie. J'écoutais en venant des émissions de ce matin, et c'était le sujet, et j'ai écouté également l'émission qui a précédé la nôtre, qui était celle de cet excellent ami Antoine Assaf, et qui nous parlait du Liban et qui faisait intervenir des religieuses et puis un évêque de là-bas. Et bon, on sait l'incident qui est arrivé, la mort de ce prêtre, de ce curé de village chrétien. Et tout cela est absolument désolant. Le Liban est une fois de plus victime de son entourage et malheureusement du fait que nous allons en parler tout à l'heure, mais l'absence totale de politique française, nationale, européenne, puisque M. Macron se dit européen. Malgré tous les propos qu'il a pu tenir, il s'est déplacé au Liban. Mais quand nos chefs d'État en France vont au Liban, c'est généralement, on le sait très bien, et pourquoi ne pas le dire, c'est pour essayer d'obtenir des moyens financiers pour gagner leur campagne électorale. En réalité, le Liban est aussi éloigné de leur cœur que la France est éloignée de leur intelligence. C'est dramatique. Bon. Alors, je me tourne vers notre ami Pierre Lours.
Bonsoir, Hilaire.
Bonsoir. Bonsoir, Pierre.
Eh bien, vous parliez tout de suite, effectivement, que la guerre Israël, Iran, États-Unis était évidemment à toutes les heures dans nos chères radios et télévisions, et etc. Et donc, avant de commencer mon petit propos, je voudrais juste relater un souvenir. J'ai servi dans un organisme de communication, l'organisme de communication du ministère de la Défense, qui s'appelle la DICOD.
Oui.
Et lors de la deuxième guerre d'Irak, j'avais mis en place une espèce de petite équipe pour suivre justement la façon dont les journalistes rendaient compte de cette campagne, à laquelle l'armée française d'ailleurs n'a pas participé.
Oui, puisque c'était la deuxième. Oui.
Voilà. Et si vous voulez, je voulais juste vous dire les deux ou trois conclusions auxquelles j'étais parvenu.
Oui, 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 oui.
On avait bien compris qu'il y avait trois sortes de journalistes, trois sortes de sources d'informations. Il y avait les journalistes qui restaient derrière leur bureau et qui essayaient de glaner au travers des agences de presse ce qu'ils pouvaient. Ils mettaient ça à leur sauce en fonction de la ligne éditoriale. Et puis rouler jeunesse, une grande partie des journalistes. Deuxième partie des journalistes, c'était les journalistes dits embarqués,
oui.
Embedded, ça,
oui.
En anglais,
oui.
Embedded. Alors les journalistes embarqués, c'est-à-dire qu'en fait, tout simplement, c'est des journalistes qui sont choisis par le ministère de la Défense pour être inclus dans une unité militaire, et ils font une partie de la campagne inclus dans cette unité. Donc ils sont équipés de casques, treillis, etc. Et puis, ils montent dans le char, ils montent dans le bateau, etc. Et ils sont trimballés, en quelque sorte, par les armées. Donc, en fait, évidemment, ils voient ce qu'on veut bien leur montrer.
Oui, bien sûr.
Donc là, si vous voulez, ils ont le mérite de sentir un peu l'atmosphère. Donc, les papiers sont plus vivants,
oui.
Mais l'information est pas pour autant plus libre et plus riche. Et puis, il y a la troisième catégorie qui est très, très, très petite. Ce sont les journalistes indépendants, mais vraiment indépendants.
Et qui prennent tous les risques.
Qui prennent tous les risques. Ils partent tout seuls sur le terrain.
Oui.
Ils ne demandent permission à personne.
Mm-hmm.
Ils trouvent sur le terrain quelqu'un qui va les conduire, les renseigner, servir d'interprète, etc. Les fixer, comme ils disent. Et ils vont effectivement essayer d'envoyer leurs papiers à certains journaux, à certaines radios qui vont les prendre ou pas, en fonction évidemment de l'intérêt politique radio, etc.
Bien sûr.
Et ces journalistes-là, donc, comme vous l'avez deviné, sont très peu nombreux, prennent beaucoup de risques, et vous les entendez très rarement, et vous les lisez très rarement. Donc l'information en temps de guerre, c'est une information excessivement limitée, très très limitée. Voilà.
Et peut-être orientée, on va dire.
Et très orientée. Très orienté. Donc la vérité, comme on dit, c'est pas une de mes formules, c'est une formule qui est employée très ordinairement. La vérité est la première victime des guerres. Ça, c'est évident.
Bien sûr.
Alors, ce que je voulais juste vous, en propos un peu introductif de notre discussion, juste vous soumettre une petite idée que j'ai eue en relisant certains passages de la Bible. Et notamment ce passage où Dieu, Yahvé, demande à Abraham de sacrifier son fils Isaac. Isaac, qui est évidemment un fils particulièrement aimé, attendu, inespéré, qui est arrivé par miracle, alors que Abraham et sa femme étaient très âgés.
Sarah riait.
Voilà.
Dans la tente.
Exactement. Oui, il riait parce que c'était
Quand elle a entendu qu'on lui annonçait qu'elle serait enceinte.
Oui, et puis là, c'était complètement...
Elle avait passé l'âge.
Voilà. Et donc, Yahvé pour éprouver Abraham, lui demande donc de sacrifier son fils sur l'autel. Et Abraham obéit. Et il monte vers l'autel en question, qui se trouve, qui n'est pas tout près. Il y a des ânes, il emmène des fagots. Et arrivé à l'endroit, il lit les pieds d'Isaac, qui ne dit rien, qui se laisse faire.
Qui se pose la question, qui pose la question à son père, mais où est...
Oui, mais où est le sacrifié, le père donc lui donne la réponse en lui ligotant les pieds. Et Isaac ne rejeune pas. C'est ça qui est extraordinaire dans le texte. Oui. Il accepte sa souffrance d'être le sacrifié. Et si vous voulez, cette histoire où on voit donc Abraham et Isaac, pour plaire à Dieu, acceptent évidemment un acte humain particulièrement terrible, horrible, masochiste, on pourrait dire, avec de l'anachronisme. J'ai pensé effectivement à l'attitude des dirigeants d'Israël et du peuple d'Israël.
S'il vous plaît, quand même, pour finir l'histoire d'Abraham, dites comment ça s'est achevé.
Oui, alors effectivement, ça s'est bien achevé.
Je ne peux pas laisser nos auditeurs, qui savent d'ailleurs, qui connaissent cette histoire, qui était autrefois archi-connue de tous les chrétiens.
Exactement. Alors effectivement, on peut le dire maintenant, je vais le dire après, mais on va le dire maintenant. Oui. Effectivement, il y avait, ayant vu que l'un et l'autre, Abraham et Isaac, obéissaient, a évidemment arrêté le geste d'Abraham qui allait, avec un poignard, sacrifier son fils. Et donc, un mouton qui passait par là a servi effectivement
de substitution.
Voilà. Et donc, si vous voulez, j'ai trouvé qu'on pouvait peut-être faire le rapprochement quand on regardait l'histoire d'Israël depuis sa fondation en 49, 48. Voilà. Et, où on constate qu'Israël et sa population sont en permanence en guerre, sont en permanence dans la difficulté et en quelque sorte, le sacrifice de leur paix. Et vraiment, et je me suis dit, mais là, ça ressemble un petit peu à ce récit biblique. Abraham étant remplacé en quelque sorte par les gouvernants et Isaac par le peuple. Et les deux acceptant effectivement
d'être victime
pour plaire à Dieu et en fait pour mériter d'être le peuple élu.
Et peut-être en attendant une victime de substitution.
C'est possible. Et alors, donc, voilà pour Israël. Mais maintenant, quand on regarde, si vous voulez, de l'autre côté, du côté des musulmans...
Les Arabes, on va dire, parce que...
Les Arabes, oui.
Parce que c'était les Arabes qui occupaient la Palestine.
Exactement.
Essentiellement.
Exactement. Mais quand je dis
musulmans... Et les Arabes chrétiens, dont un certain nombre étaient chrétiens.
Oui, c'est vrai.
Depuis les premiers temps même.
Mais si vous voulez, je voulais regarder plutôt du côté des musulmans pour nous rapprocher des Iraniens.
Bien.
Ils ne sont pas des Arabes.
Ce
sont des Perses. Et en fait, quand on regarde l'islam, là aussi, il y a un sens très aigu et très présent du combat et du sacrifice. Parce qu'on n'est pas sans savoir que là où l'islam est établi, c'est la maison de l'islam, Dar al-Islam. Mais là où il n'est pas établi, c'est Dar al-Harb, c'est-à-dire la maison de la guerre. Et
qui est à conquérir.
Et quand il y a effectivement une négociation, un traité, etc., donc c'est la maison d'al-Ard, où là, effectivement... provisoirement, temporairement,
on essaie de trouver une solution, une solution pacifique.
Voilà. Et donc, je me disais qu'évidemment, en face, donc du côté de l'islam, on avait affaire aussi à un état d'esprit particulièrement prêt à se battre, prêt à conquérir. Alors d'ailleurs, c'est assez drôle quand vous regardez les écritures. Quand vous regardez l'écriture juive, vous avez l'impression qu'ils écrivent comme avec la ligne de base qui est en haut, c'est le plafond, si vous voulez. Et tout redescend, l'écriture redescend, il y a des pics qui redescendent. Alors que l'écriture arabe, c'est l'inverse. La ligne de base est effectivement en bas et les pics montent.
Oui.
Et ça fait une mâchoire. Ça fait une mâchoire. Et donc, je me disais qu'on était, ces peuples, le peuple juif comme le peuple, comme les musulmans, étaient dans une sorte de mâchoire terrible, de drame terrible, qui évidemment pourrait peut-être effectivement se... Il pourrait peut-être s'en sortir à condition qu'il y ait effectivement une négociation, qu'il y ait un traité, qu'il y ait un modus vivendi.
Et or, personne n'en veut.
Voilà. Voilà juste.
Concrètement, personne n'en veut. Concrètement, j'entends.
Ouais.
Parce qu'ensuite, il y a les discours. Et non, mais c'est très intéressant. C'est très intéressant. Et alors, ce qu'il y a de. Ce qu'il faut bien. Enfin, je crois que ce qu'il faut comprendre, c'est que. En réalité, c'est depuis la, on va dire, la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle
bien sûr.
Qu'il y a eu ce mouvement sioniste qui s'est progressivement imposé, qui s'est imposé dans le protectorat britannique, qui a eu d'ailleurs ses correspondants chez les Britanniques eux-mêmes.
Bien sûr.
La déclaration en Balfour. Et puis, une volonté absolument suivie et irréductible. Alors, on n'évoque plus ces événements, mais entre les deux guerres, il y a déjà eu des règlements de compte terribles. Et il faut bien dire que l'origine, c'était la volonté déjà des Juifs qui n'étaient pas encore installés comme État, de vouloir, pour certains d'entre eux, personne comme... alors, j'arrive pas très bien à prononcer son nom, Jabotinsky, qui était d'ailleurs d'origine ukrainienne. Enfin, oui, il était d'Ukraine.
Il était y en a beaucoup qui viennent d'Europe de l'Est.
Bien sûr, il venait d'Europe de l'Est, comme beaucoup d'autres.
Bien sûr.
Et
qui ont changé leur nom, d'ailleurs.
Encore que les noms connus de Herz, etc. Une volonté déterminée, il a eu comme disciples, des gens comme Ben Gourion. Je crois qu'il est aussi, parmi ses disciples, le père de Benjamin Netanyahou.
Absolument. Qui a changé son nom, d'ailleurs, père.
Oui,
il ne s'appelait pas Benjamin Netanyahou, qui est un nom qui a été orientalisé, dire.
Exactement.
Alors qu'il avait un nom d'Europe de l'Est.
Exactement. Et ce sont ces gens-là qui, vraiment, ils se sont d'ailleurs disputés entre eux sur le degré de détermination... et pour ne pas dire de violence, dont ils allaient user pour parvenir à leur fin.
Ouais.
Et ça existe dès les années 1920-1922. Moi, je me suis replongé dans cette histoire, parce qu'il y a une préhistoire à cette histoire.
Absolument.
Et cette préhistoire, elle est déjà, on sent très bien, dramatique. Et les Britanniques ont été vraiment incapables de résoudre le problème. De temps en temps, il faisait une opération de police extrêmement sévère. Et après des attentats, parce qu'eux-mêmes ont subi des attentats.
Ah bah, il y avait...
De la part même de ces juifs complètement organisés en section d'assaut, véritablement.
Il y avait du terrorisme des mouvements de résistance et de libération. Ça dépendait de l'endroit où vous trouviez.
Bien sûr, ça a commencé à ce moment-là. Il n'y a eu aucune politique intelligente et prospective. Parce que progressivement se créait un problème qui est maintenant un énorme bubon dans ce Moyen-Orient.
Terrible.
Et que plus personne ne peut résoudre parce qu'il y a tellement de droits acquis des deux côtés. Parce que quand vous vivez depuis un certain temps sur un territoire... Et puis on voit très bien que dans le cadre des événements actuels, Israël, un certain Israël, on va dire, parce que je ne pense pas que tous les Juifs soient d'accord, et on voit très bien depuis très longtemps, entre eux, ils ne sont pas d'accord.
Y a une séparation entre les Ashkenazes d'un côté et les Séfarades de l'autre.
D'accord, il y a ça, aussi les questions tactiques et même la philosophie générale chose.
Bah oui.
Il y en a qui pensent que c'est une erreur de s'enquister de cette façon-là. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que De même que la Palestine dit, ben, enfin, les Palestiniens les plus fanatiques disent, ben, c'est du fleuve à la mer. Eh bien, de la même façon, il y a des juifs, en particulier orthodoxes, évidemment, qui disent la Cisjordanie nous appartient. Donc, bien on sûr. Va en profiter pour régler ce problème de la Cisjordanie où on est obligé de supporter des Arabes qui cultivent des oliviers et c'est nous qui allons les remplacer. Donc, on arrive à des difficultés qui sont considérables. Ah, considérables et pratiquement, comment dire... pratiquement impraticable.
Bah, Pompidou aurait dit que pour dénouer tout ça, il fallait trancher le nœud gordien. Alors, comment oui. sera-t-il tranché ?
Et bien sûr.
Parce qu'il sera tranché à un moment donné. Et là, est-ce que ça sera cette oui. fois-ci ? Parce que quand même, il y a quand même une énorme... Enfin, il y a un énorme danger, parce qu'on voit bien, on suppute bien que, puisque ça dure maintenant depuis 8-10 jours... que les Iraniens résistent, les Perses résistent.
Qu'est-ce qui résiste ? Les Perses ou les,
bon, enfin, en tout
ou
cas,
les ayatollahs ?
Oui, enfin, en tout cas, il y a une résistance militaire oui, évidente.
Oui, oui.
Il y a des destructions, évidemment, en Iran, mais il y en a aussi beaucoup en Israël. Est-ce que... Et on peut se demander si Israël ne va pas, à un moment donné, se sentir complètement acculé. Et comme elle possède la bombe atomique, qu'est-ce qu'elle va faire ?
Pour le moment, Israël ne veut pas que l'Iran possède la bombe atomique parce qu'évidemment, à ce moment-là, il y aurait ce qu'on appelle l'équilibre de la dissuasion.
Oui,
c'est-à-dire l'équilibre de la terreur.
Et comme dit Chirac, à ce moment-là, il y aurait justement, comme disait d'ailleurs le général Poirier, qui avait été un des créateurs de la théorie et de la force atomique française et de la dissuasion.
Le général Gallois.
Gallois aussi avec Poirier. Il disait bien que dans ce cas-là, il y a une sorte de raison qui est imposée par le fait que chacun des deux possède l'arme atomique.
C'est ce qu'on sait.
Et Chirac le disait d'ailleurs. Il disait, mais il faut que tous les deux l'aient.
Tous les pays qui risquent de disparaître, que ce soit la Corée du Nord, le Pakistan, tous ont cherché à disposer de cette arme parce que à partir du moment où on la possède, et c'est pour ça que l'Iran voulait la posséder, ben, cher ami, vous ne passez pas la frontière, sinon je l'emploie. Voilà. Sinon, parce que on ne dit même pas je l'emploie, on dit sinon. C'est ça la grande force que Macron ne comprend pas. Voilà. C'est que la dissuasion nucléaire consiste précisément à dire sinon.
Exactement.
Et pas plus. Oui. Et pas plus.
Ah ben non.
Et surtout, on ne dit pas on va la remettre en avancée avec d'autres encore. En avancée, c'est-à-dire en commun, en réalité, concrètement. Et donc, tout le monde comprend qu'à partir de ce moment-là, ça n'a plus l'efficacité du sinon.
Bien sûr. Donc, c'est très dangereux.
C'est très
dangereux. C'est d'autant plus dangereux.
Je pense que la situation est très dangereuse et qu'elle va avoir des répercussions. En plus de ça, dans nos pays, dans la mesure où d'abord il va y avoir probablement des vagues migratoires qui vont être impossibles d'arrêter. Comment voulez-vous arrêter des centaines de milliers de personnes qui fuient leur pays ? Qui fuient leur pays, c'est pas possible. Il y a un moment où c'est impossible.
Et je pense que c'est d'autant plus dangereux que, comme l'a bien démontré l'historien Thucydide, quand un empire est sur le déclin, comme c'est le cas des États-Unis, d'Amérique...
Ils veulent garder la supériorité.
Et ils font
la guerre. Ils font tout pour garder la supériorité.
Ils jettent leur dernier feu, en quelque sorte, pour se maintenir. Et on a la même chose
avec Netanyahou. Tous ceux qui interviennent, que ce soit Rubio ou tout à l'heure le ministre de la Défense des armées, Peter, je ne sais plus comment il s'appelle, tous disent nous avons une armée invincible.
Ouais.
Alors ils ont une armée invincible jusqu'au jour où elle ne sera plus invincible. Elle n'a pas été invincible en Afghanistan. Elle n'a pas été invincible en Irak. Tout homme politique qui réfléchit, on voit très bien que Trump est pris entre deux sortes de conseillers. Et lui-même, dans son esprit, il ne sait plus très bien où il en est. Ou je règle le problème très rapidement, Et je dis qu'il est résolu, alors qu'il n'est pas résolu.
Oui.
Mais parce que c'est une manière de faire, comme il a fait au Venezuela.
Et comme il l'a fait d'ailleurs à la guerre des 12 jours, il a fait la même chose.
Oui, oui, oui. Oui. Mais en même temps, ça va être très long. Qu'est-ce que je peux faire en attendant? Parce que je ne peux pas... Il y a déjà 7 ou 5 soldats américains qui ont été tués.
Oui, puis dernièrement, là, ce soir, le ministère de la Défense ou des Affaires étrangères des États-Unis a déclaré qu'il y avait 150 blessés américains.
Ah oui.
Donc, c'est un chiffre qu'ils ont donné comme ça, si ça se trouve, c'est beaucoup plus.
Ça prend une tournure irakienne, oui.
Et alors aussi, dans le danger, il y a aussi le fait que Netanyahou est attendu par la justice. Et donc lui aussi a intérêt à ce qu'on fasse table rase des choses.
Il veut regrouper tout son peuple derrière lui. Enfin, en tous les cas, tous ceux qui ont la volonté de survivre. Donc il en fait une question existentielle.
Ouais.
Au lieu d'en faire une question qui pourrait être traitée, il n'y a rien à traiter. Voilà, c'est la seule façon de ramener les choses à leur force essentielle, c'est de dire que c'est existentiel.
Bien sûr.
Et c'est amusant parce que tout à l'heure, vous parliez justement de la nécessité de l'arme nucléaire de créer une forme de raison.
Oui.
Or, c'est une vraie question, c'est est-ce qu'Israël est capable, dans ce fonctionnement, comme vous le disiez, du non négociable, de rester véritablement l'acteur rationnel?
Alors, je pense qu'ils ont des capacités sur ce plan-là plus grandes que les ayatollahs d'Iran. Moi, j'aurais assez confiance pour en connaître un certain nombre dans l'esprit persan. Parce qu'il y a en Perse, il y a d'abord des persans. Et les ayatollahs ne sont pas, à l'origine, la plupart d'entre eux ne sont pas des persans. Et d'ailleurs, on se demande comment des persans ont pu être persuadés par... par des bédouins qui sont venus pour leur expliquer ce en quoi il fallait croire, et qu'un livre était descendu du ciel et que Mahomet avait retranscrit les paroles de Dieu. Enfin, il y a que dans cette religion qu'existe cette espèce dans la mesure où je peux avoir une idée sur ces sujets qui sont complexes et sur lesquels tout le monde discute, pour ma part, dans la mesure où j'ai pu visiter les pays musulmans, je me suis rendu compte que dans la haute société musulmane, vient un moment où la conversation se libère et à 11h du soir, on s'aperçoit qu'en réalité, ils n'y croient pas. C'est une religion sociale, c'est tout. Donc, ils y tiennent parce que c'est comme ça que tient la société. Et les grands féodaux, particulièrement au Liban, parce que j'en ai fréquenté quelques-uns, et puis dans d'autres pays... du pourtour de la Méditerranée, on s'aperçoit qu'en réalité, les grands chefs, bien qu'ils rendent la justice, parce que c'est quand même très tribal tout ça, bien qu'ils rendent la justice, en fait, dans leur fort interne, ils n'y croient pas. Voilà. C'est pour eux, ou s'ils y croient, c'est purement une religion sociale, c'est-à-dire c'est moi qui Je prends en charge mon destin qui est d'être le chef de cette tribu et par conséquent, j'exécute les décisions telles qu'elles doivent être prises dans le cadre de notre religion. Mais je suis persuadé que c'était le cas, mais même y compris au Maroc et en Algérie, hein, partout. Je parle des caïds et des gens comme ça. Au bout d'un certain temps, il y avait une volonté de garder simplement une structure sociale.
Oui, bien sûr.
Mais tout ça est très difficile à définir parce qu'on ne peut pas non plus se moquer de la religion des gens. Moi, je suis pour qu'on ait d'une certaine manière un certain respect. Je trouve tout à fait anormal que l'Occident se permette de faire des caricatures stupides sous prétexte. Alors, on va caricaturer Jésus-Christ. Vous êtes les premiers à parler du respect. Alors, on doit respecter votre impiété. Et pourquoi vous ne respectez pas la piété des autres? Enfin, il y a quand même... C'est un déséquilibre total.
Oui.
Et on a commis des fautes de ce point de vue-là, parce qu'on n'exaspère pas les gens de cette façon-là. Bien sûr qu'il faut prendre des mesures, mais je ne comprends pas cette façon de faire, et même dans nos dans nos bonnes sociétés, on est là, assis, c'est le droit au blasphème, le droit au blasphème. Bon, très bien, c'est très gentil, le droit au blasphème. Et moi, si je vous blasphème, vous, pourquoi j'aurais du respect pour votre personne? Et pourquoi voulez-vous que je la considère comme sacrée? Enfin, qu'est-ce que c'est que cette façon de faire? C'est d'un moche, en plus, c'est d'un manque d'élégance. Et jamais, jamais les grands militaires français ne se sont comportés comme ça quand ils ont fait leur magnifique entreprise coloniale contre la volonté de la République, contrairement à ce que l'on dit. La République se servait de ça pour, de fait, détourner les militaires Mais en réalité, eux, ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. Bon, alors maintenant, je vous remercie, hein, Pierre.
Voilà.
Est-ce que vous avez encore un mot
Juste dire que ce qui est terrible, c'est qu'on sait très bien que la guerre n'induit pas de gagnants, mais n'induit que des perdants.
Surtout de ce genre de guerre-là.
Et si vous voulez, la guerre engendre la guerre. Ah, c'est une espèce de vendetta monstrueuse, permanente, quoi, qui se passe dans cette histoire. Une guerre se termine et une autre pointe son nez parce que, évidemment, rien n'est résolu.
Parce qu'on n'arrivera jamais à détruire complètement ni l'Iran, ni l'Irak, ni la Syrie, ni la Libye, et qu'il restera toujours des peuples qui seront là et qui se doteront de chefs et se doteront d'institutions pour continuer à exister. Enfin,
Donc voilà. Est-ce que ces deux peuples, ces deux nations très religieuses, vont quand même trouver dans leur religion un minimum d'amour de l'autre? Et c'est vrai que l'amour, c'est plutôt la religion chrétienne plus que la religion islamique ou la religion
juive. La religion catholique.
Eh oui, voilà. Donc, il faudrait peut-être convertir tous les musulmans et tous les juifs dans la religion chrétienne pour résoudre le problème.
Mais c'est peut-être un jour ce qui va se passer. et pour ma part, je l'espère, évidemment, en toute charité.
Espérons.
Merci. Hein. Alors, maintenant, je me tourne vers vous, Élie.
Alors, donc j'avais intitulé, puisqu'il fallait un titre, La reprise de la guerre au Moyen-Orient, puisque c'est un peu ce qui s'est passé. Et j'avais deux points d'introduction en disant que finalement, on avait traité ensemble du Moyen-Orient en septembre. Hein, et donc en septembre, j'étais un peu pessimiste sur... J'avais intitulé mon papier « Qui veut vraiment la paix ?» En considérant que personne. Hein, et donc forcément, parce qu'on n'a pas toujours raison sur le moment, 15 jours après, c'était le cessez-le-feu. Donc j'étais heureux à titre humanitaire, mais un peu déçu d'un point de vue intellectuel. Et donc là, je suis déçu d'un point de vue humanitaire, mais plus heureux d'un point de vue intellectuel, hein, puisque la guerre reprend. Et mon deuxième, le deuxième point d'introduction, c'était, j'étais inspiré c'était un slogan des Galeries Lafayette, il y a 30 ou 40 ans, qui était « Il se passe toujours quelque chose aux Galeries Lafayette hein, ». Et là, j'avais toujours envie de dire, avec Donald Trump, il se passe toujours quelque chose. C'est ça qui est quand même assez fascinant depuis son élection.
Avec Macron
il
aussi.
Est toujours au premier plan. Bah, Macron, on a toujours l'impression que c'est un peu Laurel et Hardy. Il y en a un qui court derrière.
C'est surtout qu'il ne se passe rien avec Macron. Il y a toujours quelque chose de dit, mais ce n'est rien.
Alors, Trump, peut-être.
Alors,
parler de Trump.
Donc, je vais parler juste un petit peu dérouler les faits. Et ensuite, essayer d'analyser les intérêts israéliens, les intérêts. Les intérêts américains, puisque ce sont eux qui ont déclenché la guerre, et éventuellement les intérêts iraniens, et on parlera un peu de la France à la fin.
Ben oui, bien sûr, il faut parler de la France, parce que Macron nous engage là.
Ouais.
Il nous engage sans nous engager, ce qui n'est généralement pas une bonne technique.
Mais c'est écouter le président Macron, malgré tout, c'est assez fascinant.
Voilà. Oui.
Alors, les faits, c'était donc, ça remonte, c'est assez récent, même, c'est au 28 février 2026. Où les États-Unis et Israël ont procédé à un nombre important de frappes contre l'Iran. Alors chacun, chez les trois pays ont appelé cette opération d'un nom différent. C'est un peu logique.
Oui.
Pour Israël, ça s'appelle le lion rugissant.
Oui.
Pour les États-Unis, c'est la fureur épique.
La fureur épique.
Et les Iraniens ont donné un nom, ça s'appelle promesse honnête à leur riposte. Et comme quoi... On pensait que c'est tout. On parle toujours du mot juif. Là, il y a un vrai humour iranien, en fait. Et je trouve que appeler une opération de riposte dans laquelle on bombarde tous ses voisins sans beaucoup de distinction, promesse honnête, ça, c'est assez drôle, en fait. Voilà, parce qu'il faut pouvoir rire un petit peu. Hein. C'était mon premier point. Donc, la première opération, enfin, la première conséquence de ces bombardements, ça a été l'élimination de celui dont le titre était le guide de la révolution. Oui. Ali Khamenei, plus le ministre de la Défense, je crois, un certain nombre de hauts responsables militaires iraniens.
J'ai relevé leurs noms, qui sont difficilement prononçables. Bon,
je crois que personne ne les connaît, donc, à part Ali Khamenei.
Et puis
cela
le créateur,
semblait
maintenant.
Donc, pardon.
Et puis le créateur, maintenant. Voilà.
Et cela semblait donc un premier succès. En représailles, en fait, l'Iran a attaqué, a lancé des missiles, donc non seulement... sur Israël, sur les bases américaines, mais aussi au Moyen-Orient, mais aussi sur tous les voisins, et vraiment tous les voisins, donc de l'Arabie Saoudite, les Émirats du Golfe, et y compris jusqu'à la Turquie et à l'Azerbaïdjan.
Et le Qatar,
oui, donc Émirats, Oman, Qatar.
Et le Qatar,
Kuwait,
c'est d'autant plus étonnant que le Qatar.
Et donc sur tout le monde, ce qui est assez surprenant, et alors le Qatar, on a visé une base américaine qu'on a manquée, mais surtout la Turquie et l'Azerbaïdjan qui est un peu lointain et hors de portée.
Et avec des risques considérables, c'est que tous ces gens-là, donc, qui auraient pu devenir des alliés, en tous les cas, dont la population aurait pu, en tous les cas, sympathiser, se sont évidemment rebiffés.
Donc ça, c'est le grand succès israélien, ça pourrait être américano-israélien, ce sera celui-là. Oui. En fait, les Iraniens ont eux-mêmes en partie, en fait. Susciter une coalition, naturelle contre eux. Parmi les... Et donc, finalement, le plus éloigné de sa missile a touché une base anglaise
à Chypre,
dont on ne s'est pas tout à fait sûr, d'ailleurs, qu'elle avait véritablement servi au bombardement contre. Mais donc, voilà, c'était une façon de se mettre... les Anglais, les Chypriotes, les Turcs, de surcroît.
Je crois qu'on ne sait même pas vraiment quelle est l'origine. Enfin, si c'est vraiment l'Iran ou si c'est pas plutôt le Hezbollah,
Oui, on ne sait pas. Mais donc, il doit y avoir une intention derrière, qui était de susciter le chaos autour d'eux et de faire payer tous ceux qui n'étaient pas avec eux, c'est-à-dire tout le monde, en fait. Hein. Et donc avec des éléments de guerre navale aussi, puisqu'il y a eu des affrontements dans le Golfe, un certain nombre de navires... de guerre iranien coulée, un certain nombre de navires civils qui ont été...
Pratiquement toute la flotte iranienne.
Voilà. L'élément le plus spectaculaire a été le torpillage en fait, de cette frégate iranienne au large du Sri Lanka. Par un sous-marin américain. Le bilan, mon bilan avait quelques jours et ça change, mais ça n'a pas énormément changé depuis, serait à peu près de 1300 morts iraniens. 300 morts libanais et à peu près 50, un peu plus, mais pas tant que ça, morts à moitié civils, moitié militaires, à la fois en Israël et dans les pays du Golfe. Hein. La conclusion que j'avais rajoutée pour me mettre à jour, parce que les choses sont très vite, c'était que aujourd'hui, enfin finalement depuis 3 jours, les bombardements continuent et... le fait marquant, c'est donc l'élection comme nouveau guide de la révolution
du fils
Khamenei. Mmh. Donc il faut rappeler que le guide qui vient d'être tué avait 86 ans.
Oui.
Donc il était tout de même plutôt vers la fin de la vie politique. Et donc on a réussi à installer son fils, ce qui n'est pas forcément totalement un succès politique. On ne sait pas quelle est l'espérance du succès. L'espérance de vie de son fils, mais pour l'instant, c'est plutôt un revers américain. D'ailleurs, Trump l'a admis assez facilement.
Oui, d'autant plus que Trump avait dit il n'est pas question que le successeur soit quelqu'un qui n'arrive pas sans mon aval. Il est coincé, et d'autant plus que le gars semble être vraiment quelqu'un vraiment sorti du sérail, complètement...
Assez fidèle à... À la ligne paternelle. Hein.
Bon, Macron est à deux doigts de dire qu'il n'y aura pas d'accueil politique pour un nouveau guide suprême iranien en France. On avait suffisamment donné un village, on leur avait confié Foucault et Sartre. On n'avait pas recommencé en leur donnant la fine fleur d'intelligence.
Peut-être que ça pourrait être une sortie, on ne sait jamais, parce qu'il y a une tradition d'accueil à des dignitaires religieux incompris iraniens. Donc, après tout, on a hébergé l'Ayatollah Khomeini pendant plusieurs années à Naufle-le-Château. peut-être que ça pourrait être une sortie de conflit, en fait, promettre l'asile. Donc c'est le moment de faire une publicité pour Radio Courtoisie. J'ai déjà fait la publicité pour Naufle-le-Château, petite bourgade accueillante. Allons-y.
Merci, allons-y pour le Bobino.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Alors, cher Eli.
Essayons maintenant d'examiner le point de vue des Israéliens, puisqu'il semble que ce soit plutôt le gouvernement israélien qui ait déclenché le conflit et qui ait un peu entraîné, mais ils sont laissés entraîner tout de même, les Américains.
C'est pas la première fois.
Ensuite, voilà, on fait la guerre, enfin, on se laisse entraîner quand on a envie d'être entraîné. Donc, du point de vue des Israéliens, c'est la reprise d'une guerre qui a été déclenchée le 7 octobre 23.
Oui.
Et c'est vrai. Et donc, puisqu'on est toujours dans un axe Iran-Hamas-Hezbollah. Du point de vue israélien, l'occasion peut paraître favorable, puisque l'Iran semble leur dernier ennemi capable de résister. C'est pour ça que, enfin, la guerre dure depuis longtemps, mais la guerre est un état assez naturel dans l'humanité. Pour l'instant, du point de vue israélien, ils peuvent penser qu'ils ont marqué un certain nombre de succès. Tout de même, le Hamas n'est plus ce qu'il était, hein, oui, même s'il risque de le redevenir à terme.
Les accords d'Abraham qui font que, d'une certaine manière, il y a un accord sous-entendu, pas forcément explicite, sauf dans certaines occasions, entre l'Arabie Saoudite, la Jordanie... Et ça va jusqu'au Maroc.
Aujourd'hui, la situation
et avec Israël,
vis-à-vis des pays arabes, sauf les Palestiniens, les relations sont assez apaisées. Manifestement, les voisins arabes et même les pays plus lointains ne veulent plus la guerre avec Israël et tolèrent son existence. Du point de vue israélien, c'est un immense progrès par rapport à il y a 20 ou 25 ans. En fait, la situation géopolitique n'est plus du tout la même. Donc, leur dernier ennemi dangereux, et qui n'est même pas voisin, mais qui reste assez proche, à l'ère des missiles, c'est l'Iran.
Voilà, à distance de missiles.
À distance de missiles.
Et de drones.
Derrière, on peut penser que le Pakistan, l'Indonésie, peut-être un jour, en fait, ce serait compliqué. Mais pour l'instant, le seul état de faire la guerre, c'est l'Iran. Donc, il était assez normal de saisir l'occasion favorable pour se débarrasser du dernier ennemi. Et donc là, l'occasion favorable, ça a été la tentative de révolution iranienne de janvier. Et on peut penser qu'ils s'en sont servis beaucoup, parce qu'ils le disent, c'est probablement en partie vrai, qu'une bonne partie de leurs informations viennent des Iraniens eux-mêmes. Il y a une tradition, de l'espionnage iranien pour des raisons complexes, parce qu'il y a eu des juifs iraniens qui sont partis en Israël, donc il y a une tradition. Et pendant longtemps, il y avait plutôt d'ailleurs une alliance entre l'Iran du temps du Shah, l'Iran et Israël avaient comme ennemi commun les Arabes. Donc c'est toujours un ennemi commun, c'est toujours utile. Donc voilà, toutes les opérations de renseignement et d'action...
Incroyable, quand on y réfléchit, de ce point de vue-là, sont remarquables.
Donc là, certains spécialistes israéliens disaient bien que les gens, et on peut les comprendre, si on se met à la place d'un démocrate, entre guillemets, en tout cas d'un protestataire iranien qui a vu ses amis et ses alliés tomber sous les balles des gardiens de la Révolution... Ils n'ont pas forcément envie de conserver le régime et ils sont prêts à fournir du renseignement à titre gratuit en prenant des risques. Et manifestement, les Américains, les Israéliens ont bénéficié de ces renseignements. Donc c'était l'occasion, en fait.
On apprend aujourd'hui que le gouvernement iranien a arrêté 30 membres de 30 membres des services qui sont soupçonnés d'avoir... livrer des renseignements aux Israéliens et aux Américains.
Mais on peut dont l'un était d'ailleurs le responsable du service, qui était quand même assez burlesque comme histoire.
Alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai aussi
Moi je les plains parce qu'on imagine assez volontiers le genre de sévices qu'ils vont subir.
Ensuite, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai dans un régime comme le régime, comme fonctionne le régime iranien en situation de crise? Il faut désigner des ennemis, faut faire des exemples et les éliminer. Mais ensuite, peut-être que c'est vrai aussi. L'histoire, je le dira peut-être une fois. Donc, c'était une occasion, sans doute, à saisir, en fait, pour le gouvernement israélien. Et on peut rappeler, comme le disait Pierre Lours, que c'est vrai que c'est aussi le rôle personnel de Netanyahou,
oui.
qui, dont la situation, alors avant l'attaque du 7 octobre, il commençait, enfin il était très vulnérable, et il commençait à être menacé d'arrestation et de prison comme un banal dirigeant français. Mais déjà, le peuple israélien a considéré qu'il avait remporté d'une certaine façon une victoire contre le Hamas, donc tout le monde commençait à évoquer la possibilité d'une grâce. Hein. Donc là, la nouvelle guerre lui permet de conserver le pouvoir et éventuellement devenir un héros national si jamais il arrive à ses fins.
Il est le chef de guerre.
Ce qui est, alors à la fin, la guerre finira.
L'effet drapeau, comme on dit.
Il la gagnera ou pas, mais si jamais il arrive à la terminer, à la gagner, voilà, il n'aura même pas besoin de demander l'asile aux États-Unis.
Hein. Mais ce qui l'oblige en plus à être d'autant plus implacable.
Oui, oui, hein, mais c'est le
pour
problème.
Pour être un chef de guerre crédible. Donc.
C'est un petit peu, on pourrait le comparer un peu à Napoléon, en fait, qui a besoin d'aller plus loin et de gagner la prochaine guerre pour maintenir ses acquis, en fait. Donc voilà ce que le. Voilà, en fait, pour. Voilà comment on pourrait expliquer sans doute l'attaque d'Israël, hein, en soulignant, mais je reviendrai un peu, que ça ne règle pas les problèmes de fond. On parlait du conflit israélo-palestinien, on en parlerait plutôt en conclusion. Alors, du côté des États-Unis, est-ce que. Trump se lance s'entraîner, peut-être. Moi, je dirais qu'on lui présente une occasion favorable qui correspond à ses intérêts. Et il y a le côté homme d'affaires qui ne voit pas toujours très loin, peut-être, ça, l'histoire le dira. Mais à un moment, il y a un bon coup à faire. C'est quelqu'un qui aime le coup. Et il en a besoin.
Il en a besoin pour ses élections.
Il en a besoin pour ses élections. Il en a besoin parce que, on va dire... À titre personnel.
Un bon coup rapide et profitable. Un bon coup rapide et profitable. Parce qu'il ne peut pas se permettre d'indisposer un électorat à qui il a promis de ne pas engager l'Amérique et les États-Unis dans une guerre perpétuelle.
Oui. Alors, je pense qu'il a tiré une leçon des conflits avec l'Irak et l'Afghanistan. Et je pense que c'est une leçon géostratégique assez sûre. C'est... si on ne laisse pas des troupes au sol, ce que je pense, c'est facile de le lire, mais je pense qu'effectivement, ça a été la grande erreur en Afghanistan et en Irak, où finalement, en Afghanistan et en Irak, les Américains remportent une victoire éclatante dans les premières semaines, en quelques semaines, les États-Unis ont gagné. C'est simplement l'erreur.
En Irak particulièrement. Oui.
Et en Afghanistan, ils gagnent sans même y mettre les pieds, en fait.
Oui,
puisqu'ils déploient quelques troupes spéciales qui manquent où ça m'amène la naine. Et ils s'appuient plutôt sur la résistance afghane avec missiles et appui aérien. Donc là, je pense qu'il n'a pas totalement tort en se disant si on part très vite ensuite, hein, on peut faire une politique de coup qui sera acceptable par l'opinion parce que voilà, quelques morts, même quelques dizaines de morts, c'est un coût acceptable pour une grande nation comme les États-Unis. Hein. Donc je pense qu'il y a cette dimension-là. C'était plutôt ma fin, mais on peut y venir, hein, puisqu'on peut comparer avec Netanyahou. Lui aussi, il a besoin d'un certain nombre de gains politiques. Hein. Il a subi un certain nombre de revers. Moi, je pense que le grand revers, alors il y en aura d'autres, on va venir, mais le grand revers qu'a subi Trump, c'est tout de même la décision de la Cour suprême.
Hein, oui.
Parce que là, les autres sont des revers locaux, mais là, c'est un revers qui remet en cause toute sa politique commerciale sur laquelle il s'était fait élire et depuis un an et demi, à peu près. Et elle a 15 jours, la décision de la Cour suprême.
Oui.
Et tout le monde commençait à dire, ça y est, il a perdu. Donc là, on ne parle plus des droits de douane, en fait. Voilà. Donc,
paradoxalement, il resserre aussi les troupes avant les mi-termes. On disait qu'il va être battu,
reprendre l'affaire des droits de douane, mais sur une autre base.
J'ai assez confiance dans son imagination. Donc, pour lui aussi, si on lui présente un coup, c'est le moment de jouer un coup. Ensuite, il n'y a pas que le coup. Il faut rappeler que depuis 1979, l'Iran, c'est l'ennemi. Hein. C'est même l'un des ennemis principaux. Il l'a bombardé il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas eu de conséquences très néfastes pour les États-Unis. Donc, on peut recommencer.
Pour prétendument détruire sous terre l'enrichissement de...
qui a peut-être marché, peut-être pas marché.
Vous avez aussi mené une opération de piratage massif en diffusant des clés USB avec des virus qui avaient largement perturbé le dispositif iranien. Et ce qui était quand même une attaque délibérée.
Mais ça, c'est plutôt Israël qui a fait ça.
Israël qui a fait ça. On pensait que l'information circule, on va dire. Alors, pour revenir sur les... parce que là, juste pour finir. Donc, on peut aussi évoquer donc l'alliance israélienne, hein, qui est maintenant on est vraiment établi, aujourd'hui on considère cette alliance comme établie, ancienne, et on a peine à imaginer que cette alliance ne puisse pas être aussi solide et certaine et qu'elle est aujourd'hui, mais elle n'est pas si ancienne que ça en fait. Notamment au moment de la création d'Israël, les États-Unis approuvent, participent, mais pas, enfin plus que la Russie, mais pas tant que la Russie. Et il faut vraiment attendre les années 50-60 où un certain nombre de pays arabes commencent à basculer dans le camp soviétique,
oui,
pour qu'ils se replient. Parce que justement, au départ, ils ne veulent pas être trop pro-israéliens comme l'ont été longtemps comme les Britanniques, qui ne veulent pas, oui, être pro-israéliens pour ne pas s'aliéner en fait, les monarchies arabes qui sont leurs alliés. Mais à partir du moment où les monarchies sont renversées et basculent dans le camp soviétique, les Américains vont se rapprocher en fait, progressivement d'Israël. Hein. Ils sont encore capables d'une stratégie d'équilibre. On le voit avec les accords de Camp David en 1979. Oui. Et ensuite, progressivement, quand on passe de ces régimes nationalistes arabes, certains assez pro-soviétiques, à une idéologie qui devient celle de l'islamisme, et que tout ça est couronné par le 11 septembre, hein, ils basculent définitivement dans l'alliance israélienne, qui est aussi une alliance locale. Donc, il faut dire, il y a aussi des, c'est important, il y a des Juifs aux États-Unis,
oui,
qui ont un certain poids, qui ont basculé, il n'y a pas si longtemps que ça, d'ailleurs, non, oui, plus dans le camp plutôt des Républicains, pour un certain nombre de raisons complexes. Alors, il y a toujours eu des Juifs démocrates et des Juifs républicains. Enfin, on peut penser que... Depuis quand, enfin, si, bah, Kissinger, en fait, le conseiller diplomatique, enfin le secrétaire d'État de Nixon, était juif, ça ne l'empêchait pas de défendre plutôt les intérêts des États-Unis avec une certaine distance vis-à-vis de la politique israélienne. Donc, mais c'est un aspect aujourd'hui qui est différent. On a cet aspect, je crois qu'on en parlait l'autre jour, de ces évangélistes,
oui,
américains qui,
oui, oui,
qui pensent qu'il y a une sorte d'alliance entre le protestantisme américain et le judaïsme israélien.
Avec une idée que nous Français, nous trouvons totalement déraisonnable, c'est-à-dire une idée messianique, c'est-à-dire le retour du Christ va se faire dans des conditions de ce genre, dans des conditions tragiques et universelles. Ils sont dans l'attente d'un Messie, exactement comme les musulmans sont dans l'attente du fameux Mehdi. Hein, et qui est en fait, c'est le même personnage, hein, au point de vue prétendu révélation. Oui, oui.
Je sais pas, c'est ce qui est intéressant sur la bascule, si vous voulez, des gens sociologiquement, historiquement juifs, des démocrates vers les conservateurs, si vous voulez, avec le mouvement des néoconservateurs, où d'un seul coup, il y a un nettoyage interne qui est fait d'un certain nombre de reliquats historiques de la droite américaine, donc de... Ça allait aussi bien des agrariens russes
oui,
du Sud qui rêvaient encore de l'État du Sud, les fanatiques du Ku Klux Klan, et qui ont été nettoyés dans les années 70-80 par une sorte de centre droit qui, à ce moment-là, permet une vraie étape bascule. Et c'est vrai que récemment, on le voit bien avec Trump, c'est plus seulement finalement des intellectuels qui ont pris leur pain dans l'appareil, mais c'est véritablement aujourd'hui des catégories, des pans de la société qui ont vraiment endossé un logiciel beaucoup plus radical et conservateur qui ne l'était là-dessus.
Bah, type Vance, type Rubio, type...
Et ce qui est assez curieux, c'est la disparition complète de... Avant, il y avait cette sorte de récit, on le voit très bien chez Philippe Roth, je suis un juif connecté à l'Europe centrale, au profit de je suis finalement un juif connecté à Israël, et où finalement l'origine européenne a complètement été ripollinée dans le système américain, au profit d'une autre filiation mythique.
Donc pour les vite, il a aussi un jour donc une fille qui a épousé un juif qui a un certain donc c'est Jared je confonds le nom du père dont le père est ambassadeur en France qui a un rôle dans la politique américaine. Donc il a des amis juifs, ceci étant,
et sa fille s'est convertie.
Je sais pas si conversion de femme mariée, enfin est-ce que c'est l'amour ou est-ce que c'est l'amour de quelqu'un d'une idée,
Rose.
Mais peu importe Donald Trump n'est pas anti-arabe pour autant. Je pense qu'il arrive à comprendre, il pense comprendre, et puis il comprend assez bien les peut-être qui les jugent un peu plus simples qu'ils ne sont. Enfin, grosso modo, les émirs et les princes arabes, il a plutôt de bons rapports parce qu'il les comprend. Ce sont des hommes d'affaires comme lui.
Parfaitement.
Et pas plus dogmatique qu'il ne le fait. C'était
sa grande idée lors de son premier mandat. Sa grande idée avec les accords d'Abraham. Et c'était assez... Il a failli réussir.
Oui, hein. Mais il a en partie réussi. Parce que là, on voit que pour l'instant, la guerre n'est pas arabo-israélienne. Elle est irano...
Israélienne.
Irano-israélienne. Et avec, à côté d'Israël, il y a à la fois... Enfin, on est revenu presque comme en 91, en fait. Oui. C'est vraiment tous les pays arabes rassemblés, malgré tout, autour des États-Unis et d'Israël. Hein. Enfin, c'est la configuration pas la même, mais elle se ressemble un petit peu. Donc c'est...
Les États-Unis apportant leur garantie avec leur porte-avions et leur marine, et puis surtout leur Tomahawk.
Mais donc, rappelons, alors là j'ai parlé des pays arabes, mais rappelons que depuis 1979, même l'Iran aide un ennemi privilégié. On peut rappeler aussi l'attentat au Liban, enfin, nous avons eu l'autre en fait, il y a eu... on a perdu plusieurs dizaines de plusieurs dizaines de soldats français les Américains en ont perdu le double à peu près au même moment, donc il y a un certain souvenir, et les Américains sont plutôt un peu plus rancuniers que nous sommes. Donc j'avais dit, ils ont déjà bombardé, et pendant longtemps l'Iran a fait partie de ce fameux axe du mal qui avait été défini par George Bush. Alors c'est... On a parlé d'État voyous aussi, il y a un peu à évoluer. C'est intéressant d'essayer de se pencher sur cette liste des États voyous et de l'axe du mal qui évolue un peu entre les deux bouches, mais dans laquelle on retrouve le Venezuela, pour régler leur compte, Cuba. Alors, si j'étais gouvernant cubain, je serais assez inquiet sur la suite, hein, parce que je pense qu'ils sont sur les... C'est une petite cible facile. Alors, je ne sais pas si j'étais chef du gouvernement cubain, si j'espère... une victoire ou un échec des États-Unis en Iran, mais je pense qu'ils vont y passer de toute façon, en fait. Hein. Oui. Soit pour compenser un échec, hein, soit puisque je continue à gagner, je joue.
Oui.
Enfin, je joue un petit peu comme ça.
Oui, Trump va mettre la main complètement sur l'Amérique du Sud. D'ailleurs, il a réuni les chefs d'État il les a réunis, c'est lui qui les convoque, et c'est lui qui leur donne des ordres, et il veut rétablir l'ordre à Cuba, au Mexique, en Colombie... Et il veut en même temps résoudre le problème moyen-oriental et puis éventuellement régler la question du Groenland.
En même temps, il a ce principe qui est super, où aujourd'hui il fait comme le bout de feu dans le monde entier, et il vous dit: je veux organiser la conférence des gens qui veulent vraiment la paix.
C'est ça.
Ce qui est quand même complètement ubuesque, mais on voit bien que la Pax Americana.
Ça correspond à quelque chose de très réel dans son esprit.
Et non, j'avais étudié donc cet axe du mal. On voit que il y avait la Libye qui n'existe plus en ce moment.
Non, oui, malheureusement.
Il y avait la Corée du Nord, hein, qui, à mon avis, est plus à l'abri.
Oui, maintenant, ça y est. Oui.
Et puis, elle a des voisins aussi, donc c'est un peu plus difficile. Hein. Il y a eu à un moment le Soudan qui lui aussi a disparu en tant qu'entité politique. Ça ne veut pas dire qu'un jour ils s'en sortiront, mais pour l'instant, Et donc l'axe du mal a été à peu près anéanti. Il reste plus grand monde, et donc c'est assez logique tout de même de s'attaquer à l'Iran pour les Américains. Je pense qu'il lui faut je reviens sur un peu cette idée du coup, il lui faut des succès, notamment parce qu'il a connu des échecs, qu'on peut considérer comme des échecs. Donc, j'ai parlé des droits de douane, il y a tout de même la politique de l'immigration avec l'action de l'ICE.
Oui.
C'est mal passé auprès d'une partie de l'opinion américaine, donc il faut aussi pouvoir, c'est aussi une façon de tourner la page. Est-ce que c'est sérieux, est-ce que c'est pas sérieux, mais en tout cas, c'est un problème de communication, c'est un problème politique, l'affaire Epstein, hein, avec quelques jours, on évoque le fait qu'il aurait peut-être... Je suis un peu trop vieille France et j'ai du mal à trouver ça si grave que ça, peut-être parce qu'on a eu Madame Claude, on a eu d'autres.
L'affaire Epstein, c'est une affaire, à mon avis...
Mais on en reparlera, mais
c'est une affaire en fait très grave, et c'est une affaire française en grande partie. Contrairement à ce que prétend Macron, qui voudrait en faire une affaire américaine. Mais il ne faut pas oublier que le monsieur avait un appartement à Avenue Foch et qu'il y recevait pas simplement des jeunes filles, mais qu'il y recevait beaucoup de monde.
Mais c'est des, et, je pense qu'on va, peut-être...
Et en particulier des conseillers politiques.
Oui. Gardons l'affaire Epstein pour une soirée, parce que finalement, ça va... ce sera un petit peu compliqué. Mais en tout cas, ça fait partie des choses qui voudraient...
Bien sûr.
Sur lesquelles dont on peut ne pas parler quand on fait la guerre. Hein. Il y avait les succès de politique étrangère, avec finalement l'affaire du Venezuela montre que peut-être un coup, ça peut marcher. On a l'impression qu'il a voulu refaire, en fait, l'élimination du dirigeant.
Oui.
Il veut refaire ce qu'il a fait au Venezuela. C'est moins facile, apparemment, pour le moment. Et il y a aussi le fait qu'il a réussi, finalement, à imposer tout de même un cessez-le-feu entre Israël et Hamas, mais un peu comme pour Israël. En fait, il a de même conscience, et Israël a conscience, que le Hamas est en train de se réarmer, n'a pas disparu, et commence à préparer la prochaine.
Bien sûr. Comme
et
le
donc, ça risque, d'apparaître un jour, en fait.
Bien
donc,
sûr.
Il faut peut-être reprendre la guerre avant qu'il ne reprenne des forces. Et la dernière promesse tenue, mal tenue, en tout cas, qui n'est pas encore tout à fait un succès pour l'instant, c'est la paix entre la Russie et l'Ukraine. Et donc là aussi, et on ne sait pas très... Enfin, comme je dis, il se passe toujours quelque chose, on est obligé à chaque fois de réfléchir et de... Il rebat les cartes.
Voilà, constamment.
C'est vraiment un joueur, constamment, et on ne sait pas ce que ça peut faire.
Et on ne connaît pas les coups de téléphone qui passent, parce qu'il a téléphoné
il a téléphoné à Poutine, il y a
deux jours, oui.
Ce que je persiste à trouver fascinant, c'est le fait que Trump veuille la paix, mais qu'il la veut à certaines conditions, qu'il n'arrive pas totalement à l'imposer à son appareil. Hein.
Oui.
Puisque, voilà, je pense que l'Ukraine ne peut pas faire la guerre si elle n'est pas soutenue par les États-Unis. Trump veut la paix, je pense qu'il est assez sincère, mais à un certain point, et pour l'instant, il n'arrive pas à l'imposer malgré sa position. Est-ce que s'il l'emporte en Iran, et alors c'est compliqué là, si on prend du point de vue russe, s'il l'emporte en Iran, c'est même un point très déplaisant pour les Russes. Alors maintenant, la Russie n'a plus de frontières avec l'Iran, mais c'est pas très loin tout de même. Alors, les Russes n'étaient pas fanatiques du gouvernement théocratique iranien parce qu'ils ont beaucoup de musulmans à leurs frontières et ils préfèrent des musulmans calmes que des musulmans agités. Hein. Mais de là à avoir un régime pro-américain, il y a un pas. Et donc, il pourrait y avoir une négociation. Est-ce qu'ils envisagent une négociation à l'ancienne, chacun chez soi? Tu me laisses l'Ukraine, je laisse l'Iran. Parce que là... Tout à coup, Trump devient... Les forces armées américaines deviennent vulnérables aux renseignements russes. Hein.
Oui.
Et donc, les Russes ont admis... Enfin, ils le font sans doute un petit peu, mais c'est de bonne guerre. Si les Américains fournissent du renseignement aux Ukrainiens, les Russes ont intérêt à fournir du renseignement aux Iraniens, ne serait-ce que pour que les Américains arrêtent, en fait. Donc, il y a tout à coup un jeu de type guerre froide qui repart et on ne voit pas très bien... qui semble assez maîtrisé par les deux acteurs qui ont... Tout de même, une qualité, les deux, de ne pas se haïr réciproquement. Et, enfin, je ne sais pas, mais c'est un jeu un peu dangereux.
Et dans le même temps, les Chinois assument de faire du renseignement pour l'Iran.
Oui.
Tout le monde renseigne.
Ce qui est aussi partie le sujet, c'est qu'autant la guerre froide était beaucoup pensée en termes bipolaires, aujourd'hui, on n'arrive pas très bien à savoir qui est-ce qui dérange le plus Trump, finalement, entre les Russes et les Chinois. On sait que, justement, toute sa guerre économique était surtout lancée... plutôt contre les Chinois que contre la Russie, qui était de toute façon déjà sous embargo et sous sanctions. Et c'est un peu la grande question. Mais d'ailleurs, c'est le sujet un peu délicat à se demander, c'est est-ce que Trump essaie vraiment de créer un nouvel ordre politique ou finalement, c'est plutôt un nouvel ordre économique qu'il veut créer? Dans ce cas-là, est-ce qu'il va, oui ou non, réussir à le mettre en place? Parce que c'est...
Je crois qu'il n'a qu'une seule idée en tête, c'est montrer que les États-Unis sont supérieurs à tout, et grâce à lui. Et grâce à lui. Donc, il veut redonner aux États-Unis sa liberté d'action totale, qui décide de la guerre ou de la paix dans le monde entier. Et c'est à mes conditions, et uniquement à mes conditions, que les traités doivent se faire. Et ça, il l'a dans la tête, et il pense que ça correspond à ce que pense... une partie de son électorat et en particulier ce que pensent les intellectuels de sa nouvelle droite composée de gens comme Vance, comme Rubio, comme qui ne sont pas des vrais néoconservateurs, mais qui sont
qui sont même tout à fait contre les néoconservateurs.
Oui,
mais c'est le côté qui est assez étrange, c'est que ces gens-là aujourd'hui finalement ils reviennent sur des positions de néoconservateurs.
Exactement, et ils sont mais moi, je dois dire que je serais... Il m'intéresserait de rencontrer des personnes de ce genre-là. C'est pour, discuter, pour discuter avec eux et voir jusqu'où ils vont dans leur... Il n'est pas dit que Trump soit le meilleur interprète de leur pensée.
Et on va lancer un appel parce que peut-être qu'il y en a un qui écoute Radio Courtoisie, qui parle français, écoute Radio Courtoisie
des États-Unis. Bien sûr, bien sûr.
Il vient de Crémier et même vous rencontrer. Je disais un portrait dans le monde, il y a un sous-secrétaire d'État au commerce qui est un franco-américain qui sert un petit peu aujourd'hui de passerelle entre les francophones et les américains qui se rendent de temps en temps en France et qui, quand il est aux États-Unis, n'avoue surtout pas qu'il parle français parce que ça fait un petit peu. Un petit peu décadent là-bas. Hein.
Donc, vous voulez dire qu'il arrive dans les conversations et dit pardon for my French.
Voilà. Et donc, voilà, ce serait intéressant.
Parce que ce sont des gens qui veulent redresser la société. C'est-à-dire, c'est plus profond qu'une simple volonté de gagner une élection et d'être le monsieur dans le monde qui a la personnalité la plus, la plus louée, la plus admirée, etc. Je crois que c'est qu'il y a de fait un courant qui existe autour de Trump, dont Trump a profité, de gens qui sont vraiment, qui ont vraiment une pensée sociale, politique, économique qu'on va qualifier, puisque c'est comme ça que la qualifie Macron, de réactionnaire.
Voilà. C'est un peu
l'international Vance, réactionnaire.
Des gens qui pensent que le
plus important, c'est la famille, le plus important, c'est la décentralisation, c'est de donner des responsabilités aux gens, de les responsabiliser, et puis de détruire toutes les théories woke, transgenre, machin, etc. Et Trump a été à un moment leur interprète. Il faut se souvenir de Trump disant il y a un homme, il y a une femme. Bon, moi, je dois vous dire que le jour où il a dit ça, je me suis dit, au moins, il y a au moins un chef d'État sur cette terre qui a un peu près la tête sur les épaules.
Quand on pense qu'on est obligé
de dire ça. Alors, ça ne veut pas dire pour ça que ça justifie Trump sur tout le reste, évidemment.
Parce que je ne pense pas qu'il soit l'interprète parfait de cette pensée. Je me méfierais de toute façon déjà de l'étiquette réactionnaire s'agissant d'eux.
Parce qu'à
la fois, ils veulent réaffirmer un certain nombre de libertés, mais en même temps, ce sont souvent des libertariens effrénés, des technicistes au dernier degré.
Et alors, ça, il y a toute une partie. Voilà, il y a toute une partie.
Il y a de tout. Trump a la tête d'un camp, il arbitre souvent entre les différents membres du camp.
Vous avez raison, il y a des techniciens qui s'imaginent qu'on va refaire une humanité, qu'on va mettre des. Qu'on va mettre des petites pilules ou des petites dans les cerveaux des hommes et que ça augmentera leur humanité. Non, moi je ne fais pas du tout appel à ces gens-là et de fait ils existent et ils veulent il y a de tout dans l'amas que Trump a constitué. Mais moi je pense à des gens comme Vance, Rubio. Ces gens-là, je trouve qu'ils sont, qu'ils ont des idées, dans le fond, très saines sur les sujets essentiels.
Ça va beaucoup vous déplaire parce qu'il se qualifie lui-même de gaulliste.
Il nous reste peu. Non.
Mais je pense qu'il ne faut pas. Je vais revenir sur sa politique étrangère. Je pense que Donald Trump n'est pas forcément un idéologue, c'est-à-dire qu'il n'a pas forcément la vision d'un monde qui obéit à une logique rationnelle, ce qui n'est pas le cas. Il pense qu'il faut qu'il y ait les États-Unis en premier, mais c'est son job, on pourrait dire, comme américain, qu'il essaie de faire un certain nombre de coups pour augmenter son prestige et la puissance américaine, mais qu'il ne voit pas un monde totalement ordonné selon des principes américains. Il va gagner un certain nombre de coups pour améliorer les choses. Ce qui est plutôt assez pragmatique.
Alors maintenant, la France.
Alors voilà, c'était la fin. Alors juste, la première conclusion, c'était, je ne sais pas, c'est toujours difficile de commenter les choses, et je dirais, ça passe ou ça casse. C'est-à-dire, on ne sait pas très bien. Il est possible que les Américains arrivent à avoir un avantage, échanger les choses, et peut-être qu'effectivement, qu'il y ait une révolution qui changerait les choses positivement et... On rêverait d'une restauration iranienne avec un monarque rassembleur. Pourquoi pas. Mais pour l'instant, c'est loin d'être joué.
Et paradoxalement,
je dirais que si ça casse, en fait, pour les Américains et pour Israël, ils sont juste, ils n'ont pas forcément perdu grand-chose. Donc on peut comprendre, d'un point de vue, c'était un coup où il n'y avait pas grand-chose à perdre et des choses à gagner. Ça ne veut pas dire qu'ils gagneront. Mais je pense qu'on peut le concevoir comme ça.
Sauf que le malheureux Liban en paye, les pots cassés. Oui.
Mais alors, ce qui est curieux, c'est qu'on a l'impression, alors je ne sais pas si c'est la traduction du monde ou simplement, on a l'impression qu'aujourd'hui, les Libanais commencent à en vouloir plus aux Hezbollah qu'à Hezbollah qu'à Israël. Hein. Parce que je dirais que les torts sont partagés en espèce, mais c'est intéressant de...
Ah, mais les chrétiens du Sud, ils sont parfaitement... Les chrétiens du sud Liban, ils sont parfaitement au courant que le Hezbollah crée une tension exprès avec Israël pour rendre les choses impossibles. Alors, Israël en profite en plus de son côté.
Voilà. Donc, parlons désormais de la France. Hein. Alors, c'est assez curieux, mais je vois le président Macron parfois... Hein. Non,
je vous permets de dire du mal de Macron.
Non, mais je n'oserais pas.
Je sais que vous êtes très objectif.
Donc, pendant l'épidémie de Covid, il a eu cette déclaration en disant « Nous sommes en guerre hein, ».
Oui.
Et aujourd'hui, alors, il a dit plusieurs phrases. Il a dit « Nous ne sommes pas au combat. La France ne fait pas les guerres au Moyen-Orient. La France ne fait pas partie de cette guerre », ce qui est un peu bizarre comme formulation. Alors que, pour le coup, on est vraiment en guerre, puisqu'il y a tout de même des avions de combat français qui ont participé à la défense des bases aériennes françaises qui sont aux Émirats Arabes Unis, qu'on a, c'est Pascal qui me rappelait, qu'on a tout de même des accords de défense, on s'aperçoit qui nous lient aux Émirats Arabes Unis, et s'ils sont attaqués, ce qui est un petit peu le cas, on est censé les défendre avec un certain nombre de, moyens. Donc, manifestement, nous sommes tout de même un petit peu en guerre, me semble-t-il. Hein.
Mais... France veut assurer la liberté de navigation. La sûreté maritime.
Mais sans faire la guerre.
Ce que je n'ai pas aimé, je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, ce que je n'ai pas aimé, c'est sa façon de procéder. C'est-à-dire, il est allé sur le porte-avions. D'abord, il a rencontré à Chypre le président chypriote et puis le premier ministre grec. Et puis ensuite, il est allé sur le porte-avions qui est au large de la Crète. Et là, il est arrivé, évidemment, entouré des officiers, du commandant, de l'amiral, etc. Mais il s'est arrangé pour s'adresser directement à l'équipage, c'est-à-dire sans aucune structure hiérarchique. Et ça, je pense qu'il l'a fait exprès. C'est comme s'il s'adressait dans un meeting pour expliquer « Je suis le seul à être capable de vous expliquer quelle va être la stratégie de la France. »
Non, mais je pense que ça vous choque. Le problème, c'est que vous êtes encore dans une approche symboliste. Je pense que tout simplement, il voulait reproduire le fameux clip des Village People in the Navy où on voit ce groupe de grands intellectuels en train de danser face à des marins médusés entraînés par un hymne disco.
Vous le voyez en indien, mais c'est vrai qu'il a une coupe de cheveux un peu curieuse.
Macron est capable de reconnaître tous les personnages.
Je pense qu'il a que vous êtes d'autant plus sensible que vous avez été, que vous avez servi dans l'armée, et que pour vous, il y a un certain nombre de codes qui existent.
Je suis d'une famille de marins, oui.
Et Emmanuel Macron, lui, n'a jamais fait l'armée, c'est le premier président à ne l'avoir pas faite.
Oui, il ne sait pas ce que c'est qu'un
réveil. Voilà, Nicolas Sarkozy avait son service militaire, je crois, à Ballard, donc à l'endroit où on pouvait faire autre chose. François Hollande était officier de réserve. Je pense que c'était pas une grande période.
Il fallait le voir défiler. De ce point de vue-là, Macron a un peu plus le sens de la tenue.
Oui, mais il savait un peu ce que c'était comme militaire, alors que Emmanuel Macron est le premier président à être totalement extérieur à la chose militaire. Hein. Oui. Ils ont dit que tous les précédents s'étaient battus. Et donc, voilà. Et donc, il est totalement extérieur à ça. Et je pense qu'il a un problème. Alors, j'aurais tendance à dire que, curieusement, Donald Trump a aussi un problème avec les militaires parce que Donald Trump n'a pas connu l'épreuve du feu. Et ça et alors qu'il avait commencé à vouloir être peut-être militaire, il a fait un lycée militaire et ça produit un complexe. Et je pense que chez Emmanuel Macron, il y a aussi une sorte de complexe. Il ne veut pas considérer que ça existe, parce qu'en plus, la société militaire française est en dehors de tous les cadres de pensée macroniste.
C'est moi le chef.
Voilà, et puis c'est une espèce de vestige de la tradition où on a des hommes et des femmes, d'ailleurs, généralement. Enfin, voilà, ça... Et je pense qu'il a un problème, avec ça. En fait, on l'a vu dans la façon dont il traite, dont il a traité les officiers, le général de Villiers au début de son mandat. Et on voit que... Donc, il a nommé des gens à lui, etc., mais... Je pense qu'on n'a pas l'impression de la part de l'armée d'un amour débordant envers le président Macron. Hein.
Pour lui, c'est des moyens, c'est des outils à sa disposition. Et alors, il déplace un porte-avions, il va déplacer, bon, il a déplacé une frégate, il veut en déplacer 6 autres, et je sais pas, il en restera plus une seule. Et il va mettre tous les moyens là-bas. Et qu'est-ce qui peut se passer ? Enfin, il prétend qu'il va libérer le commerce maritime. Mais il faut qu'il passe le canal de Suez, il faut qu'il rentre dans la mer Rouge, il y a les outils, enfin... Il faut qu'il arrive à passer jusqu'au détroit d'Ormuz.
Mais il a une capacité à affirmer des positions stratégiques absurdes et à ne pas être repris par les journaux.
Non, et je pas pense repris que... par les généraux non plus. Voilà. Ce qui est quand même.
C'est la grande muette, donc oui. Ils n'en pensent pas moins. Après tout, je pense qu'ils peuvent ralentir les choses en fait. Voilà, donc c'est pas là. Oui. Mais je repense toujours. Et c'est pas totalement enterré, mais cette idée qu'on pourrait faire la paix entre l'Ukraine et la Russie en déployant des troupes françaises. Alors ça fait des années que ce qu'on l'affirme, c'est totalement absurde. La Russie n'a aucun intérêt à avoir des troupes de l'OTAN débarquer en Ukraine. Mais à chaque fois, il agite en disant on continue à réfléchir, personne n'est contre. Et les journalistes, oui, pourquoi pas, ça peut être une piste.
Je ne résiste pas au plaisir de vous sortir cette citation sur Macron. La diplomatie de Macron, c'est essentiellement et pour ainsi dire uniquement un discours. Sans aucun effet tangible, le discours, les intérêts de la France ne sont jamais concernés, pas même évoqués. Donc vous aurez sans peine reconnu une citation d'Hilaire de Crémier dans le numéro 2 février de Politique Magazine.
Ouh là là, qu'il faut évidemment lire. Quel courtisan vous faites, Francis, hein ?
Non, mais je lis les bonnes phrases.
Voilà. Il nous reste quelques minutes.
Je pense que Francis, c'est le mot de la fin. Hein, ce qu'il a cité.
Il nous reste quelques minutes et je voudrais quand même qu'on revienne sur cette histoire de Macron, parce que je trouve que cet homme est dangereux d'une certaine manière, parce qu'il prend des décisions, il les prend visiblement tout seul dans son esprit, il a peut-être un ou deux conseillers, mais qui sont des flatteurs, et il n'envisage pas la situation internationale telle qu'elle est. Il la considère par rapport au profit qu'il peut en tirer dans l'immédiat. Et le profit qu'il en tire dans l'immédiat, c'est d'aller sur le porte-avions et s'adresser à l'équipage et faire une sorte de cours de stratégie comme il fait des cours de géostratégie, vous savez, aux ambassadeurs pratiquement chaque année, et qui sont totalement ridicules. Pendant une heure et demie, il parle devant des gens qui connaissent les dossiers infiniment mieux que lui. Et évidemment, un homme sage dans un cas pareil se tait. Louis XIV ne parlait pas tout le temps. Nos rois ne parlaient pas tout le temps. Lui, on a un faux roi qui parle. Et même Hollande avait une certaine prudence sur ce terrain-là. Il se disait, je ne connais pas, je ne m'aventure pas.
Non, mais il y a une forme d'arrogance, en fait, chez Emmanuel Macron, qui est un peu qui est surprenant parce qu'elle est un peu ridicule. On a toujours l'impression d'avoir quelqu'un qui n'a pas grandi, en fait. On a l'impression d'un étudiant de Sciences Po à 22 ans qui sait tout parce qu'il vient de faire
Sciences Po. C'est le garçon de 14 ans qui cocufie le père de ses copines. Parce que c'est exactement ça ce qui s'est passé. Et elles n'en ont pas tenu regret. Et ça a marché. Alors, comment voyez-vous là ? Quelques mots, il vous reste 2 minutes. Voilà, 3 minutes. Il nous reste 3 minutes. Jeune homme. Dites quelques mots pour conclure.
Alors je pourrais dire quelques mots et m'arrêter là. J'aurais dit mais quelques mots, mais je vais quand même essayer de développer quelque chose. En fait, on est dans une situation qui est assez terrible, parce qu'on est véritablement dans la définition même du tragique, c'est-à-dire qu'aucune des positions qui se présentent aujourd'hui est véritablement favorable aux Français, et on ne sait pas très bien de quel côté il faut porter à un moment sa volonté, en disant faut-il aller dans un camp ou dans l'autre. On est bloqué dans une sorte d'attente un petit peu, et sur lequel effectivement, comme vous le disiez, la sagesse nous demanderait d'attendre. Là où, au contraire, Macron veut jouer la pitié.
D'autant plus que, pratiquement, on a un budget complètement aberrant, que nous avons une dette colossale, et que, évidemment, le prix de la dette va augmenter, étant donné les circonstances. C'est-à-dire qu'on va passer très rapidement à 3,5, à 4, et à partir de ce moment-là, le poids de la dette, ça sera chaque année de 100 milliards, de 120 milliards, et on ne les a pas. Donc on est en train de jouer avec des équilibres financiers et en plus de ça, avec ce risque énorme.
Mais je crois que Macron, faute d'être capable d'avoir une gestion de bon père de famille, oui, n'est jamais sorti de l'économie de guerre du Covid, et qu'il se dit, de toute façon, cette économie de guerre, elle fonctionnera bien jusqu'à la fin de mon mandat, et puis après, avec un peu de chance, serait élu président de l'Europe démocratique, et il remboursera la dette française avec les avoirs des Allemands, et évidemment, les Allemands ne se laisseront pas faire.
Avec les avoirs russes aussi.
Bon, russes.
Un mot pour finir, cher ami.
Oui, en disant, quelle devrait être la position de la France, finalement, et quelle est la position du président? Il veut à la fois faire la guerre et faire la paix, il veut à la fois envoyer des troupes et libérer des navires et libérer le golfe, tout en appelant le président Trump et en appelant le président iranien. Hein. Mais quelle est sa crédibilité et dans la guerre et dans la paix? Il n'y en a pas grand-chose. Les Russes ont certainement une crédibilité dans la paix, pour le coup. Les Américains en ont une dans la guerre. La France, là, n'en a pas. Donc, pourquoi se mêler de ce qui ne nous regarde pas et d'une guerre pour laquelle nous n'avons pas été consultés, hein. Voilà.
Exactement. Merci beaucoup. Ah, il reste encore une petite minute. Une petite minute. Eh bien, je m'adresse à nos auditeurs pour les remercier de nous avoir écoutés. C'est extrêmement intéressant. Et nous pensons particulièrement à nos amis libanais. Comme je suis comme tous les Français, je connais un peu le Liban et j'ai des amis au Liban et je pense à eux et notamment aux chrétiens du Liban. Il n'y a pas que des chrétiens. Et évidemment, le Liban va supporter les contre-coups de toutes ces politiques qui se font absolument sans aucun ménagement pour les peuples et qui sont pour permettre à des hommes comme Benjamin Netanyahou, ou comme Trump, ou comme les ayatollahs d'Iran, qui sont là que pour se donner un rôle historique. Eh bien, on a assez des hommes politiques qui veulent jouer des rôles historiques. Et ça, c'est pas simplement pour cette affaire, mais c'est également pour demain, pour les municipales et surtout pour les présidentielles. Au revoir, chers auditeurs.
D'entendre le Libre Journal de la Réaction dirigé par Hilaire de Crémier, diffusé en direct sur Radio Courtoisie mardi 10 mars 2026 de 21h30 à 23h et réalisé par Virginie. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative afin de sauvegarder une indépendance absolue. Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5€ par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9€ ou 6€ seulement, si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.